Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire Radio. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons aborder le génocide juif et ses enjeux mémoriels. Nous allons parler d'un événement tragique, sombre de l'histoire, le génocide de la Seconde Guerre mondiale.
Durant cette période, des millions de personnes ont été persécutées et exterminées en raison de leur origine ethnique, de leur religion ou encore de leurs convictions politiques. Le génocide, principalement perpétré par le régime nazi en Allemagne, a marqué l'humanité de manière indélébile.
Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de l'horreur et à découvrir l'importance de se souvenir de ces événements pour éviter qu'ils ne se reproduisent avec nos spécialistes de la question littéraire et cinématographique. Donc tout d'abord, nous allons dire bonjour à nos journalistes qui viennent présenter une chronique littéraire sur quatre œuvres. Donc le journal d'Anne Frank, Si c'est un homme de Primo Levi et Mosdar de Spiegelman. Donc on va accueillir Charlotte, Valentine et Laura.
Le journal d'Anne Frank est un journal intime devenu roman mondialement connu et publié post-mortem. De multiples questions entourent ce livre, c'est pourquoi aujourd'hui, deux spécialistes nous répondent. Ce roman est l'un des plus vendus au monde, il a été traduit dans 70 langues, mais qu'évoque-t-il réellement ?
Le journal d'Anne Frank retrace la vie de la jeune autrice juive lors de la Seconde Guerre mondiale, précisément entre juin 42 et août 44. En effet, lors de son 13e anniversaire, Anne reçoit un journal intime dans lequel elle raconte ce qu'elle a vécu. Elle a dû quitter l'Allemagne pour s'installer à Amsterdam, dans un grenier nommé l'Annexe, afin d'échapper aux persécutions nazies. Anne raconte son quotidien, et notamment les difficultés rencontrées, comme la souffrance d'être constamment enfermée. Cependant, l'épilogue écrit par Otto Frank, le père d'Anne et le seul survivant, nous apprend que la cachette de sa famille a été découverte en août 44. Il nous annonce aussi qu'Anne a été envoyée au camp de concentration de Bergen-Belsen, où elle y meurt rapidement du typhus.
Qu'est-ce qui donne sa particularité à l'œuvre ? Quelle est sa portée ? Il est important de comprendre que la forme de journal intime était le moyen d'expression d'Anne, une jeune fille timide. Oula. Elle raconte ce qu'elle vit sans filtre, ce qui permet d'en savoir plus sur les conditions de vie médiocres qu'ont connues les Juifs pendant la guerre. De plus, c'est le regard d'une enfant qui, malgré son jeune âge, est consciente de ce qu'elle vit, ce qui rend le récit poignant et permet au lecteur de constater les atrocités. À travers cette publication, Otto Frank permet de faire vivre la mémoire de sa fille et d'éveiller les consciences, tout en rappelant que tout le monde a été victime du génocide, tant les adultes que les enfants. La publication de ce témoignage a-t-elle suscité des débats ? La véracité du journal d'Anne Frank a en effet été remise en cause à plusieurs reprises, notamment par ceux soutenant des thèses négationnistes. Otto Frank et la fondation Anne Frank ont alors été obligés de prouver, par plusieurs analyses, qui se sont d'ailleurs avérées concluantes, qu'il a réellement été rédigé par la jeune fille. L'authenticité du livre a ainsi été prouvée. Merci à Charlotte et Laura pour vos réponses, qui nous ont permis de comprendre davantage le journal d'Anne Frank, qui écrit l'histoire et la mémoire d'un génocide à partir d'un témoignage unique.
Merci beaucoup mesdames, nous accueillons désormais Lilou, Clara et Jules, qui vont nous présenter Si c'est un homme de Primo Levi.
Ce livre marquant mais tout aussi bouleversant de Primo Levi nous plonge dans l'atrocité du génocide des Juifs. Primo Levi est un écrivain italien né en 1919 à Turin. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, en février 1944, il est arrêté et envoyé à Auschwitz pour ses actes de résistance. Il survivra à l'Holocauste et écrira son livre « Si c'est un homme » en 1947. Dans son livre, il nous raconte son histoire tel un journal intime. Il retranscrit son vécu à travers la proximité qu'il met en place avec le lecteur.
Le récit déchirant de Primo Levi raconte son expérience tragique en tant que déporté dans le camp de concentration d'Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Il décrit tout au long de cette œuvre les conditions inhumaines, la faim constante, les violences et la déshumanisation à laquelle les déportés ont été confrontés. Malgré toutes les horreurs vécues pendant 11 mois de déportation, l'auteur nous dévoile dans ce livre les moments d'espoir, de solidarité parmi les prisonniers. Son histoire est à la fois un témoignage personnel et une réflexion profonde sur la nature de l'humanité et la capacité de survie dans les circonstances extrêmes.
Cette œuvre littéraire a été appréciée tout d'abord puisque c'est un témoignage authentique de l'Holocauste qui permet au lecteur de comprendre l'affreuse réalité du génocide avec l'écriture émouvante qu'il emploie. Si c'est un homme a contribué à sensibiliser le public, mais avant tout de se souvenir de l'Holocauste afin de préserver la mémoire des victimes. Il est donc apprécié pour sa valeur historique. Malgré son succès, l'œuvre a suscité des débats. C'est notamment l'authenticité du récit qui est remise en cause. Mais pas seulement, puisque l'objectivité est aussi source de doute de par la rapide publication de l'ouvrage.
Après avoir vu deux témoignages, personnes ayant vécu ce génocide, nous allons maintenant passer à une bande dessinée d'un fils de survivant du génocide, avec Lily et Marine.
Mao, c'est une bande dessinée de l'auteur et illustrateur Art Spiegelman. Le premier tome paraît en 1986 et le second en 1991 aux éditions Flammarion en France. C'est l'histoire d'un fils qui tente de faire ressurgir la mémoire de son père, Vladek, un juif polonais déporté à Auschwitz. Par une superposition des temporalités, nous suivons son témoignage depuis le milieu des années 1930 jusqu'à la fin de la guerre. L'écrivaine Lilia et la dessinatrice Marine sont là pour nous en parler. Le récit est d'abord marqué par un choix étonnant, celui du zoomorphisme.
En effet, Art Spiegelman contourne le problème de l'indicible en représentant les juifs sous la forme de souris et les nazis en chats. Il illustre l'idée nazie selon laquelle les juifs seraient des parasites qui pullulent et que l'on doit exterminer.
Certains juifs se sont pourtant indignés de la perpétuation de ce cliché nazi.
L'auteur tente de représenter le processus de meurtre de masse avec la souris prise au piège dans l'organisation génocidaire. Aussi, le graphisme de l'auteur s'adapte subtilement aux faits historiques. Les vignettes, qui deviennent verticales au passage dans les camps de la mort, montrent la plongée dans l'enfer, avec des souris que l'on voit hurler, témoignant de l'horreur. Les scènes sont représentées sans devenir obscènes, du fait d'un dessin qui n'a rien de génial. On ne trouve pas alors d'esthétisation du génocide, qui est dépeint avec pudeur.
Les nuances d'écriture apportent aussi une réelle dimension littéraire à Maos. Art Spiegelman a-t-il réussi à représenter le génocide par les mots, selon vous, Lilia ?
Dans Maos, les mots sont complémentaires aux images. On voit par exemple que Vladek a été profondément traumatisé par sa déportation, ce qui transparaît par une syntaxe allemande rock qui nous dit le monde perdu de la Pologne et du Yiddish. Ainsi, on élite des personnages humains, parfois détestables, toujours déchirés. La justesse de ce récit repose sur la retranscription exacte de la parole de ce survivant de la Shoah. Elle donne une réelle valeur historique et mémorielle à l'œuvre, en mêlant mémoire individuelle et collective à l'histoire, grâce aux transitions entre présent et passé.
Finalement, Art Spiegelman parvient à constituer un récit contemporain et lisible pour une narration hautement complexe. Maos marque son époque, qui voit l'émergence massive de la mémoire de la Shoah, en incarnant un récit unique. Une question reste en suspens, Vladek a-t-il réellement survécu à la déportation ?
Remercions Lily pour cette intervention en tant que journaliste et Marine et Lilia en tant qu'écrivaine et artiste.
Nous accueillons désormais Lily Roche et Maxime Grand qui sont des spécialistes de la question littéraire à qui nous allons poser quelques questions.
Donc je vais vous poser une question qui est: comment les témoignages des survivants ont-ils influencé notre compréhension du génocide ?
Alors les témoignages des survivants ont influencé notre compréhension du génocide. Puisqu'à travers les écrits, nous avons pu nous faire une idée de ce qu'il s'est réellement passé. Cependant, on ne peut pas s'imaginer complètement les faits, car aucun mot ne peut raconter pleinement la violence du génocide. Cependant, en premier lieu, avec la joie d'avoir terminé la guerre, les personnes ne se sont pas penchées sur le génocide juif et tzigane, mêlant la déportation des peuples juifs et tziganes avec ceux des prisonniers de guerre.
Comment l'écriture du génocide a-t-elle évolué dans la littérature au fil du temps ?
Il a fallu du temps pour que l'on parle du massacre du peuple juif et tzigane comme d'un génocide. En premier lieu, il y a eu une étape de silence des rescapés, choqués par les événements, plus avec les témoignages noyés dans les crimes de guerre. On observe cependant des sorties de livres comme Le pianiste en 1946 ou encore Si c'est un homme de Primo Levi en 1947. Ce n'est qu'après, avec le procès Eichmann, membre du parti nazi, dans les années 60, que la parole juive se libère et de plus en plus d'écrits font lieu avec une volonté de transmettre ce qu'il s'est passé avant la mort des rescapés. On observe des œuvres comme La Shoah, l'impossible oubli en 1995, ou encore Shoah, livre de Claude Lanzmann, sorti en 1985.
Donc pour finir, Lily, quels sont les effets de l'écriture du génocide sur la mémoire collective et la prévention des atrocités ?
L'écriture du génocide, qu'elle prenne la forme de témoignages, de récits littéraires ou de textes à valeur plus scientifique découlant de recherches historiques, permet dans un premier temps de construire une mémoire collective qui est indispensable à la guérison des traumatismes au sein des différents groupes de mémoire. L'écriture permet aussi de transmettre l'histoire aux générations futures. Cette transmission passe évidemment par l'éducation, dans le cadre de laquelle les écrits sur le génocide sont des outils indispensables. Au-delà d'une simple information sur les faits, ces écrits sont essentiels à la sensibilisation des populations quant aux conséquences dévastatrices des atrocités passées, promouvant la tolérance, le respect des droits de l'homme et la prévention des discriminations, en invoquant la compassion, l'empathie ou simplement la raison. En matière de prévention, l'écriture du génocide a un rôle majeur. En effet, en comprenant les causes et les mécanismes qui ont conduit à un génocide particulier, les écrits peuvent contribuer à l'identification des signes précurseurs d'atrocités imminentes. Ma réponse n'est pas encore tout à fait satisfaisante. Je me dois d'aborder les effets pervers de l'écriture du génocide sur la mémoire collective notamment. En effet, l'instrumentalisation politique de récits conduit à la manipulation de l'opinion publique.
De la même manière, si l'écriture du génocide est utilisée de manière sélective pour souligner uniquement les souffrances d'un groupe spécifique, cela peut renforcer les divisions ethniques, religieuses ou culturelles. Pour terminer, et je me trouve malheureuse de constater un tel mouvement, certains individus ou groupes peuvent utiliser l'écriture du génocide pour nier ou réviser les faits historiques, remettant en question la réalité des atrocités commises. Cela peut conduire à la désinformation et à une compréhension faussée de l'histoire. Je pense par exemple au mythe fondateur de la politique israélienne par Roger Garaudy. L'auteur y soutient la thèse négationniste d'un complot sioniste qui, pour justifier l'expansionnisme israélien, aurait, je cite, « inventé la Shoah ». Il considère et écrit qu'Hitler n'aurait pas donné l'ordre de l'extermination, que les Juifs furent décimés par le typhus et que les fours crématoires servaient à brûler les cadavres, et j'en passe. On voit alors que les effets pervers de l'écriture du génocide s'avèrent dangereux et qu'il est important de s'en prémunir en s'informant sur la base d'écrits nourris d'histoires sourcées et vérifiées pour permettre la construction d'une mémoire collective de la Shoah et de la prévention des violences intercommunautaires.
Et nous accueillons maintenant quatre chroniqueurs qui vont nous présenter un film documentaire Shoah. Donc nous passons au domaine cinématographique. Les quatre chroniqueurs sont Titouan, Éloi, Nicolas et Mathias.
Entrée dans l'histoire brute et poignante de l'humanité avec Shoah de Claude Lanzmann. Un voyage au cœur de la mémoire pour ne jamais oublier. Afin de redécouvrir cette œuvre monument, reprise dans la liste des meilleurs films de tous les temps, nous commencerons par vous présenter ce documentaire, puis nous le résumerons avant de s'intéresser à sa réception auprès du public. Je laisse Éloi vous présenter ce film.
Shoah, et ses presque 10 heures de film, aura pris 12 ans de travail. Il se divise en 4 parties. La campagne d'extermination à Chełmno, les camps de la mort de Treblinka, puis d'Auschwitz-Birkenau, puis le processus d'élimination du ghetto de Varsovie. Les images exposées sont brutes. Aucune musique ni montage visuel n'a été utilisé. Les entretiens sont restés dans leur langue d'origine. Claude Lanzmann a refusé d'utiliser toute image d'archives dans une volonté de vouloir tout faire lui-même. Les traductions, quand il y en a, proviennent de la traductrice Francis Kaufmann qui accompagnait le réalisateur durant le tournage. Le film a été inscrit en mai 2023 au registre à la mémoire du monde de l'UNESCO. Pour mieux comprendre le film, Nicolas va nous en faire un résumé.
L'œuvre cinématographique de Claude Lanzmann, Shoah, paru en 1985, retrace la période du génocide des Juifs, lors de la Seconde Guerre mondiale, au travers de témoignages poignants qui proviennent de personnes qui ont participé au massacre de l'intérieur comme de l'extérieur. Dans cette production, qui se rapproche plus du documentaire, les témoins s'expriment tous difficilement, ce qui est parfois perçu comme de la souffrance. On retrouve dans leur regard la peur qui ne les a pas quittés. Je vais à présent laisser Mathias conclure.
Le film ne comporte aucune reproduction et laisse notre imagination faire le travail psychologiquement. Puisqu'il est impossible de faire revivre les scènes du passé et de retranscrire l'indicible, Lanzmann n'utilise aucune image d'archive. De plus, l'immersion est accentuée avec le déroulé chronologique des événements. En conclusion, Shoah de Claude Lanzmann demeure un chef-d'œuvre cinématographique qui transcende le genre du documentaire. Le film offre une perspective unique, émotionnellement puissante, sur le génocide juif. La contribution de Lanzmann à la préservation de la mémoire de ce génocide fait de Shoah un point de passage important pour comprendre le génocide juif et ne pas l'oublier.
Merci beaucoup messieurs, nous prenons désormais la route pour le continent américain, car c'est une production hollywoodienne qui va nous être présentée par Lila, Apolline et Eléa. Je cite « La liste de Schindler » de Steven Spielberg.
Le film est une adaptation du roman « L'Arche de Schindler » de Thomas Keneally, paru en 1982. Cette œuvre retrace l'histoire de l'industriel allemand Oskar Schindler. Membre du parti nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, il va protéger plus de 1000 juifs en les faisant travailler dans son usine de vaisselle émaillée. Progressivement, les juifs perdent leurs droits, leurs biens. Ils sont parqués dans un ghetto, déplacés dans des camps de travail, puis envoyés à la mort. Ils voient alors leurs conditions de vie se détériorer jusqu'à la déshumanisation. On les considère, je cite, comme de la vermine, des rats ou des poux.
Pour avoir une place sociale et des appuis.
Le film met en lumière les psychologies complexes des personnages. Oskar Schindler, le personnage principal, paraît aux premiers abords fêtard et coureur de jupons. Puis, on s'aperçoit qu'il est un manipulateur, tant avec les juifs pour obtenir de l'argent, qu'avec les nazis pour avoir une place sociale et des appuis. Il n'est pas nazi par idéologie, tout le long du film ce sont ses juifs, ses travailleurs essentiels, il éprouve de la compassion envers eux. On se rend compte que c'est un personnage paradoxal car rien,
ne le prédestinait à sauver des juifs. Les SS allemands sont peints comme des êtres démunis d'empathie. La folie s'empare d'eux progressivement, tant les événements sont inimaginables. Amon Goeth est frappé par l'ironie du sort, il aime une juive alors qu'il les haït.
Cependant, à sa sortie, le film a d'ailleurs été vivement critiqué, notamment par Claude Lanzmann, qui l'a qualifié comme étant une véritable transgression, puisque ce film traite du génocide sous la forme d'une fiction. Or, à travers ce film, on peut voir justement la volonté de Steven Spielberg, lui-même juif, de dénoncer les atrocités commises pendant la Shoah avec des scènes crues. C'est ces scènes qui permettent aux spectateurs de rentrer dans le film et d'être particulièrement émus. On peut y voir des enfants séparés de leurs parents, allant droit à la mort, des nourrissons et des vieillards se prendre des balles en pleine tête, des corps qui sont déterrés puis brûlés, des fusillades, et puis des représentations plus implicites comme celle des chambres à gaz. C'est tout cela qui fait la singularité de la liste de Schindler, qui a été récompensée 7 fois aux Oscars.
Merci beaucoup mesdames pour cette présentation. Nous accueillons désormais 2 historiennes de la question cinématographique à qui nous allons poser quelques questions. Alors tout d'abord, quel est le rôle du cinéma dans la transmission du message de l'importance de la mémoire et de la prévention des génocides?
Le plus souvent, la question de la représentation du génocide au cinéma consiste à se demander quels sont les films qui ont marqué l'histoire de la mémoire. On peut citer l'exemple de 3 films et séries, comme la série Holocaust, sortie en 1978, le documentaire Shoah, sorti en 1985, et la liste de Schindler, qui constituent des marqueurs d'une histoire culturelle de la mémoire du génocide. Cependant, dans le cinéma, il est impossible de tout montrer au public, ce qui peut être en effet dangereux, car on peut penser que ce qui s'est passé est banal alors que ça ne l'est pas. Mais si on ne voit pas toutes les images, on ne peut pas imaginer des choses horribles qui se sont réellement passées de notre propre chef.
Merci beaucoup.
Nous allons continuer avec une seconde question. Nous allons poursuivre avec la seconde question qui est: quels sont les impacts émotionnels que les représentations du génocide au cinéma peuvent avoir sur le public?
Quand les premières productions cinématographiques sont apparues, comme la série Holocaust de Marvin Chomsky en 1978 ou encore le documentaire Shoah de Claude Lanzmann en 1985, elles se sont accompagnées d'une prise d'abord de conscience et ensuite une prise de conscience de la spécificité du génocide des Juifs. Elles ont également marqué l'imaginaire collectif.
Poursuivons avec la question suivante. Est-il possible de représenter le génocide, un tel acte, par le cinéma?
On se pose très tôt la question de la représentation du génocide au cinéma et surtout les limites de cette représentation. Alors oui, on peut le représenter, mais avec des limites à ne pas franchir. Par exemple, mettre en scène le génocide peut revenir à lui donner une dimension esthétique. C'est d'ailleurs la critique qui a été adressée au film Capot de Gillo Pontecorvo de 1960. La mise en scène est aussi dangereuse, car l'image de la Shoah peut devenir un euphémisme. De plus, un certain absolu de l'horreur est intransmissible et ne peut pas être mis en scène. Il ne faut pas en faire un spectacle, mais transmettre la mémoire de ce génocide. Par exemple, Claude Lanzmann parvient à représenter le génocide au cinéma tout en respectant les limites. Il refuse la mise en scène et laisse la parole aux témoins, qui certains reviennent sur les lieux pour représenter à travers le témoignage.
Merci Amandine. Donc nous allons finir avec la dernière question qui est: que pensez-vous de manière générale de la représentation du génocide au cinéma?
La représentation du génocide au cinéma est un sujet délicat. En effet, elle peut contribuer à informer et sensibiliser le public sur ces événements historiques importants et tragiques. En revanche, il est nécessaire que les réalisateurs traitent ce sujet avec respect pour les personnes touchées et leurs proches, pour n'offenser personne. Pour finir, nous pensons que représenter le génocide au cinéma est important pour préserver une mémoire collective.
Merci à tous nos spécialistes et chroniqueurs d'avoir partagé avec nous leurs témoignages et expertise sur ce sujet si spécial. En effet, le génocide de la Seconde Guerre mondiale a été une tragédie sans précédent qui a coûté la vie à des millions de personnes innocentes. Il est essentiel de se souvenir de cette sombre période de l'histoire pour se rappeler et prévenir la répétition de tels actes inhumains à l'avenir. L'importance de l'éducation, de la tolérance et du respect de la diversité ne doit jamais être sous-estimée.
Merci également à vous tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. On vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée sur Histo Radio et espérons que ces interventions vous ont beaucoup apporté.